If at night you just can't sleep, 'cause you can't stop crying. Heartache seems to multiply.
19h10 TU sur RFI.
Il est midi, ici à Paris, 13h, à Gaza. Bonjour à tous.
Karine Bellicha.
À la une, le poste frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte a rouvert aujourd'hui de façon très limitée. Seules quelques centaines de Palestiniens vont pouvoir quitter l'enclave. Le passage se fera sous le contrôle strict d'Israël et sous surveillance de l'Union européenne. Les discussions entre Kiev et Moscou sont un peu retardées, annoncées aujourd'hui. Elles vont finalement reprendre à Abu Dhabi la semaine prochaine, alors que l'Ukraine a connu une défaillance majeure de ses installations électriques. La correspondance d'Emmanuel Chaz à Kharkiv à suivre. Le 1er février 2021, l'armée birmane renversait le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi. Depuis, le pays s'est enfoncé dans une terrible guerre civile. 5 ans plus tard, ceux qui ont tenté de résister au coup d'État sont toujours profondément marqués. Valentin Sebron a rencontré l'un d'eux en Thaïlande. Sa réouverture était prévue dans le plan de paix américain. Israël a rouvert très partiellement le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza ce matin. Pour le moment, seules quelques centaines de personnes vont pouvoir entrer ou sortir de l'enclave palestinienne. Michel Paul, le passage se fera sous un contrôle sécuritaire drastique de l'armée israélienne et une supervision internationale.
Le passage ne sera autorisé qu'aux piétons avec un flux limité, environ 150 personnes par jour, circulant à bord de bus organisés. Côté Gaza, ce sont des agents de l'autorité palestinienne qui géreront les opérations sous l'œil des observateurs de l'Union européenne. Mais Israël conserve un droit de regard absolu sur la sécurité. Chaque voyageur devra obtenir un feu vert préalable des autorités israéliennes. Pour ceux qui regagnent l'enclave, un second filtrage sera effectué par l'armée israélienne dans un couloir dédié situé juste derrière la frontière. Cette décision intervient après le rapatriement en Israël de la dépouille de Ran Gvili, le dernier otage qui était encore aux mains du Hamas. Alors si cette ouverture soulage une infime partie de la population, la Croix-Rouge rappelle que l'urgence humanitaire reste totale pour les millions de Gazaouis toujours privés de services de base au cœur de l'hiver. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et 200 malades palestiniens devraient être convoyés vers des hôpitaux égyptiens. Les ONG et l'ONU demandent toujours l'acheminement massif et sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'Iran est prêt à faire face à la menace d'une intervention militaire des États-Unis. Le numéro 1 du régime, l'ayatollah Ali Khamenei, prévient ce matin qu'en cas d'attaque, une guerre régionale serait déclenchée. Face au déploiement dans le golfe d'une dizaine de navires américains, les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de Téhéran, ont commencé, eux, des exercices navals avec tirs réels dans le détroit d'Hormuz. L'Iran, dans le même temps, par la voix de son président, assure vouloir privilégier la diplomatie. Donald Trump assure que des discussions sont ouvertes entre les deux pays sans plus de détails. Les négociations directes entre Ukrainiens et Russes devaient reprendre à Abu Dhabi aujourd'hui. Volodymyr Zelensky indique désormais qu'elles sont repoussées à mercredi et jeudi prochain. L'émissaire du Kremlin, Kirill Dmitriev, était hier en Floride. Il a rencontré l'envoyé spécial américain, Steve Witkoff, avec le secrétaire américain au Trésor et le gendre du président américain, Jared Kushner. Les pourparlers butent toujours sur la question des territoires. La Russie continue d'exiger notamment le contrôle des régions de l'est de l'Ukraine hier. Le courant a été rétabli dans toutes les régions ukrainiennes à la suite d'une défaillance technique générale. Les coupures d'urgence avaient entraîné l'arrêt des métros de Kiev et de Kharkiv et privé des millions d'habitants d'électricité, d'eau et de chauffage pendant une grande partie de la journée. La correspondance d'Emmanuel Chaz.
La situation continue d'être difficile pour des millions d'Ukrainiens. Ici, les températures tournent autour de jusqu'au moins 20 degrés Celsius et la grille énergétique reste extrêmement fragile. Même si toutes les régions ont été reconnectées, il y a des coupures de courant programmées puisque le réseau est exsangue après des semaines de frappes russes et que les réparations continuent jour et nuit. Les coupures d'électricité affectent également la distribution d'eau et de chauffage. À Kiev, un quart des immeubles résidentiels restent privés de chaleur. Cela affecte particulièrement les personnes vulnérables, les personnes âgées ou à mobilité réduite qui ne peuvent pas toujours quitter leur appartement. Et en ce 1er février, la Russie a annoncé la fin de la trêve qu'elle avait unilatéralement déclarée au sujet de ses frappes sur Kiev. Emmanuel Chaskarki, RFI.
Et la nuit dernière a été de nouveau marquée par des bombardements russes. Deux Ukrainiens ont été tués à Dnipro, dans l'est du pays. Une bataille perdue par les autorités démocrates de Minneapolis contre l'administration Trump. La justice a rejeté de manière temporaire leur demande de bloquer les opérations de la police fédérale de l'immigration, jugeant leurs arguments insuffisants. La possible illégalité de ces opérations n'a toutefois pas encore été étudiée. À Washington, les démocrates contestent aussi les méthodes de ces agents qui ont tué deux manifestants. Ils exigent une réforme de la police d'ICE pour donner leur aval sur le budget de l'État, créant une paralysie budgétaire. Un accord partiel au Congrès pourrait débloquer la situation dès lundi. Un autre jugement, cette fois particulièrement cinglant contre l'État fédéral, ordonne aux autorités de libérer le garçon de 5 ans arrêté à Minneapolis par la police de l'immigration et dont la photo, bonnet bleu aux oreilles de lapin, avait fait le tour du monde. Le juge dénonce dans sa décision la perfide soif d'un pouvoir sans entrave. Capgemini a fourni à la police américaine de l'immigration des outils pour identifier et localiser des personnes étrangères. Face à la vague d'indignation suscitée, le géant français de l'informatique a décidé de vendre cette filiale. Depuis plusieurs jours en France, des responsables syndicaux et politiques avaient interpellé le groupe sur sa responsabilité. Le directeur général de Capgemini avait affirmé ne pas avoir eu connaissance de ce contrat conclu par une filiale indépendante. Il y a 5 ans, jour pour jour, le 1er février 2021, en Birmanie, l'armée renversait le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi. Depuis, le pays s'est enfoncé dans une guerre civile avec plus de 3,5 millions de déplacés selon l'ONU. Le coup d'État du 1er février 2021 a bouleversé la vie de toute une génération, raconte Valentin Sébron, qui a rencontré un jeune Birman réfugié à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Reportage.
Il n'a que 27 ans et pourtant déjà 2 années de prison derrière lui, arrêté en mars 2021 pour avoir manifesté contre le coup d'état militaire. Zo est sorti en mai 2023 profondément marqué.
Je devais prendre des médicaments. Il n'y avait pas un seul jour où je me sentais en sécurité. J'étais dans l'angoisse permanente, je voyais le docteur presque tous les mois.
Il dénonce par ailleurs l'inhumanité des militaires.
Ils ne sont pas humains, ils sont mauvais, torture et tellement d'innocents. Ce sont des fascistes.
Réfugié à Chiang Mai depuis peu, le jeune homme se sent mieux et agit plus sereinement en faveur de la résistance. Depuis sa chambre, il donne des cours en ligne, principalement à des étudiants vivants dans des zones échappant au contrôle de la junte.
Le fossé dans l'éducation est immense. Dans certaines zones de conflit, des écoles sont prises pour cible et les enfants n'ont plus accès à une véritable scolarité. Personne ne s'occupe d'eux. C'est pour ça que j'essaie de combler ce manque.
Militant écologiste, il enseigne la protection de l'environnement, mais dispense aussi des cours d'anglais à des jeunes combattants qui ont pris les armes contre l'armée birmane. Valentin Sébron, Chiang Mai, RFI.
C'était il y a un mois tout juste, l'incendie d'un bar de la station suisse de Cran Montana faisait 40 morts et 116 blessés. L'enquête avance, Baptiste Coulon, malgré de nombreuses errances.
Dans ce dossier, 4 personnes sont mises en examen, dont Jacques et Jessica Moretti, le couple de Français propriétaires du bar. D'abord incarcéré, Jacques Moretti est aujourd'hui libre, mais sous contrôle judiciaire. Interdiction pour lui de quitter la Suisse. Face aux enquêteurs, les époux se défendent de tout manquement. La sortie de secours a toujours été ouverte, à d'abord soutenu le gérant. Elle était pourtant bien verrouillée le soir du drame. La faute d'un salarié, répond finalement Jacques Moretti lors d'une audition. Les magistrats veulent aussi comprendre pourquoi aucun contrôle de sécurité incendie n'a été effectué dans ce bar depuis 2019. Ils sont pourtant obligatoires tous les ans. L'actuel et l'ancien responsable de la sécurité de la ville seront auditionnés début février. Des avancées qui ne masquent pas les critiques concernant la conduite de l'enquête suisse, des perquisitions tardives, un risque de collusion entre les époux soulevé par des avocats de victimes et des images de vidéosurveillance automatiquement effacées une semaine après le sinistre. La procureure du canton ne croyait sans doute pas si bien dire en affirmant quelques jours après l'incendie que l'enquête prendrait plusieurs mois, voire plusieurs années.
Baptiste Coulon, tout de suite, c'est l'atelier des médias sur RFI.
Shower, shave, make it to the station. Waiting for the train, goddamn train late again. Hit the streets and they are seething, ducking, weaving, begging, stealing. Got you kneeling and you're feeling that you want him all. That's how it goes, living in the city. Everybody getting down to the nitty gritty. They don't look back, they don't think of pity. Hey, you know what, never said it would be pretty. That's how it goes, living in the city. Everybody getting down. I'm the one to just do what I am. When I'm gonna go postal, gonna have a tattoo, be the headhunter, then I'm gonna move coastal. Everything gonna be just fine, working every day on my gold mine. That's how it goes, living in the city. Everybody getting down to the nitty gritty. They don't look back, don't take no pity. Hey, you know we never said it wouldn't be pretty. That's how it goes, living in the city. Everybody getting down to the nitty gritty. They don't look back.
déjà jeté le haut. Tu m'ennuies.
semaine difficile, vous méritez aussi de vous divertir. Cette émission, sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives.
Principe actif.
Et j'aimerais pour commencer que vos applaudissements aillent à ceux qui ont beaucoup travaillé avec nous.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe actif, le mix des cultures.
Feeling your love
makes you realize you're alive.
You will survive. You've got me thinking. You've got me thinking.
You've got me thinking.
You've got me thinking. You've got me thinking. I'm getting over my head. Way over my head. Is this the part where we get back together? The moment that we do, then the next day we're through. I'm in.
You see, I'm in.
I'm over my head.
Over my head.
I'm over my head.
Over my head.
Baby, I'm alive. I'm alive.
This time, your booty's on the table, I'ma lay it on the line. Too much heartbreak and too much crying. That's heartbroken, it won't be mine. Just better hope that it works this time. Your booty's on the table with a post-it sign. Too much heartbreak and wasted prime. That's heartbroken, it won't be mine. That's heartbroken, it won't be mine. No. 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 No.
Makes you alive, so alive, so alive. Makes you alive, so alive, so alive. Makes you alive.